Bonjour, j'espère que ce début de culte vous a fait du bien, vous a donné le bonheur que nous avons tous de pouvoir louer notre Seigneur. Et louer notre Seigneur, c'est le thème de ma prédication de ce matin. Nous sommes toujours dans les psaumes. Je vous avoue que je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades prédicateurs. Je sais qu'il y en a un ou deux qui pensent comme moi que ça fait quelques mois que nous faisons les psaumes et ce n'est pas facile parce que les thèmes sont assez récurrents. On a peur parfois de vous redire un peu les mêmes choses, même si à chaque fois nous les vivons différemment. Et on espère, enfin moi j'espère que à chaque fois que je peux prendre la parole sur des psaumes, ça a du sens et que cette obligation sympathique que nous nous sommes donnée d'être dans les psaumes finalement est une bénédiction pour nous tous et non pas un fardeau qu'on est forcé de porter. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler du dernier psaume. N'y voyez pas une symbolique comme si je ne veux plus en parler. Je dis tout ça à mes anciens. Mais j'avoue que je veux parler du dernier psaume parce que à force de les avoir lus, d'en avoir parlé, d'avoir écouté ce qui a été dit autour sur quelques-uns, parce qu'évidemment on est loin de les avoir tous lus, j'ai été tout à fait intrigué par la forme de ce psaume qui est tout à fait particulière et que nous lirons un peu plus tard. En fait, il commence par louer le Seigneur et se termine par louer le Seigneur. Il y en a très peu sur les 150 psaumes que nous avons dans notre Bible, il y en a très peu qui ont cette particularité-là. Il y en a en fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 6, ça fait 14, 15. Sur 150, vous voyez que c'est très très peu de choses. Et on pourrait penser que, pourtant, c'est la base des psaumes. Les psaumes, ce sont des chants, et les chants, donc c'est fait pour louer le Seigneur. En fait, on en parle peu et on en parle surtout vers la fin. Dans les 105 premiers psaumes, pas une seule fois, c'est erreur de ma part, ils sont introduits par louer le Seigneur. Il y a marqué chant du Seigneur, etc., mais il n'y a pas l'impératif louer le Seigneur. Et encore moins, il se termine par aussi louer le Seigneur, comme s'il y avait une espèce de double parenthèse qui fait qu'on commence par ça et on termine par ça. Et dans les psaumes donc 105, 106, 107, 111, 112, 113, 117, 118, les 135, 136 qui sont les seuls qui ont cet impératif en début. Je vais juste vous lire le 117 parce qu'il est caractéristique. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Là, on est dans l'impératif de louer sans réfléchir à la limite. Mais juste après, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours, louez l'Éternel. Il y a comme si on devait louer. Parce que, louer, car, il y a une forme, si vous ne comprenez pas pourquoi, en fait, je vous rappelle pourquoi il faut louer le Seigneur. Et tous les psaumes, donc tous ceux qui comportent jusqu'au 150, cette double impératif louer pour finir et pour commencer, ont tous cette explication ensuite. Voilà pourquoi vous devez les louer, le louer. Et donc je disais que tous les psaumes en fait ne sont que l'explication de pourquoi nous devons louer le Seigneur. Nous en avons vu beaucoup, c'est des psaumes de parfois l'homme exprime sa détresse, exprime ses doutes, exprime aussi ses moments de bonheur, exprime ses interrogations, aussi ses chants de joie. Enfin, il y a toute la vie de l'être humain qui est résumée dans les psaumes à travers différentes situations qui font que, comme il est dit dans le 117, tout ça fait que nous devons louer le Seigneur. Et à la fin des psaumes, cet impératif s'accélère, puisque dans les quatre derniers psaumes, du 146 au 149, là vraiment, les quatre derniers commencent par louer l'Éternel, finissent par louer l'Éternel de façon tout à fait régulière. Mais ils sont longs et à chaque fois, il y a loué parce que, loué car. Et comme si le psalmiste se disait que les 149 précédents avaient certes raconté des choses fort intéressantes, avaient mis en lumière des situations que chacun peut retrouver, je vous dis, de notre vie quotidienne, de doute, de joie, de détresse, enfin j'ai déjà raconté ça, à la fin il se dit, finalement, l'important, c'est même pas ce qu'on vit, c'est même pas comment on le vit, même s'il a pris 149 psaumes pour l'expliquer, pour dire, voilà, quand vous avez ça, ça peut arriver, mais à l'arrivée, il faut louer le Seigneur. Et ce qui est merveilleux dans le psaume, donc le dernier psaume, comme si on est arrivé à la quintessence de ce que voulait nous dire le psalmiste, il nous explique même pas le pourquoi du comment, il nous dit « Louez le Seigneur ». Et nous allons le lire. Alors dans cette version-là, c'est « Louez », dans d'autres versions, c'est « Acclamez ». On est dans le même registre. Donc c'est « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance ». Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et c'est comme ça que se terminent les livres des psaumes. Là, il n'y a plus d'explications, il n'y a plus de commandes, pourquoi, il n'y a plus de retour vers nous-mêmes et vers ce que l'on peut vivre dans nos existences, on arrive au paroxysme, à la quintessence, à l'essence même des psaumes, louer l'Éternel. Et ça se décompose en cinq étapes, si je puis dire. La première, c'est louer Dieu dans son sanctuaire. Comme si l'idée, c'était que pour louer Dieu, pour le rencontrer, pour... Donc avoir envie de l'acclamer, de le remercier, il faut d'abord être auprès de lui. Il faut être dans son sanctuaire, là où il est, au milieu de nos frères, au milieu de nos sœurs. Nous sommes aussi le temple de Dieu, donc c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu, c'est d'abord une affaire entre, si je puis dire, entre nous et lui, individuel. Et c'est là que nous devons d'abord trouver la force et la raison de le louer. C'est dans la relation personnelle que nous avons avec lui. Ensuite, au verset 2, louez-le pour ses hauts faits. Une fois que on le loue parce qu'il est avec nous, on peut à ce moment-là le louer pour ce qu'il fait dans notre vie, les hauts faits dont il nous comble. Mais simplement parce que d'abord, il y a eu l'étape de la relation directe avec lui. Puis louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Alors, dans d'autres versions, c'est selon l'infini de sa grandeur, dans sa grandeur infinie. Et ça, c'est simplement que, juste avant, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, c'est que, j'ai sauté une ligne, excusez-moi, dans son sanctuaire, j'en ai parlé. Donc le deuxième, c'est louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. C'est une fois qu'on est en relation avec lui et qu'on a cet amour qui est complètement partagé, à ce moment-là, on peut s'ouvrir au monde, et le monde, le premier monde qui s'ouvre à nous, c'est le monde de sa création, c'est le monde de sa nature, c'est le monde de la terre où il a étendu toute sa puissance, tout son pouvoir, et qui nous conforte dans le fait que nous sommes face à notre Créateur. Et l'étape numéro 3, c'est donc les hauts faits dont je vous ai parlé. À ce moment-là, on peut le remercier et le louer pour ce qu'il a fait dans notre vie. La quatrième étape, c'est louer-le selon l'immensité de sa grandeur, donc dans l'infini de sa grandeur. Et c'est ce qui va nous permettre de sortir de notre vie à nous simplement que nous venons de dénoncer, donc dans la relation avec lui, dans ce qu'il fait dans notre vie. C'est dans l'infini de sa grandeur, dans la projection qu'il fait de nous, mais de tous les autres êtres humains aussi, dans l'avenir, l'infini, l'éternité de l'amour qu'il nous donne. À partir de notre petite existence, de notre relation avec lui, de la nature qui nous donne la preuve de sa puissance, puis de ce qu'il réalise dans nos existences qui nous conforte encore plus d'être liés à lui, nous avons à ce moment-là la possibilité de nous extirper de notre vie terrestre, de notre du fait que de notre finitude pour aller avec lui vers l'infini de son amour et de la possibilité d'être avec lui à ses côtés pour l'éternité. Vous voyez que tous ces loués-là commencent de manière intelligente parce qu'ils peuvent nous concerner, nous, ce qu'on peut comprendre, et petit à petit, on ouvre le champ pour arriver à l'infini de sa grandeur. Et ensuite, on repart sur les instruments. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Jean-Charles est là-haut. Elle est là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Ce qui m'intéresse, c'est que je vois deux sortes d'instruments. Je vois des instruments à grosse puissance, comme la trompette, comme le tambourin, et je vois des instruments plus intimes, comme la luth, le harpe, et les instruments à cordes, qui sont aussi des instruments assez intimistes. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans le fait que nous louons Dieu selon les étapes dont nous venons de parler, il faut aussi le faire connaître, il faut que cette louange, elle puisse bénéficier à d'autres, mais autant avec des moyens d'amplification qui résonnent à l'oreille, aux oreilles de beaucoup, avec les trompettes, avec les tambourins, mais aussi dans l'intimité, dans une relation plus personnelle avec certaines personnes. Il y a des moments où il faut savoir hurler cette louange, et puis d'autres moments, il faut savoir simplement mettre le volume un peu plus bas pour peut-être que la louange aussi soit entendue d'une certaine façon. Vous voyez donc un dernier psaume très très court qui en fait pourrait résumer totalement notre vie chrétienne, mais c'est évident que pour arriver à ce psaume-là et à pouvoir louer selon toutes les étapes que j'ai dit et avec différents types d'amplification, il faut déjà être des chrétiens qui sachent de quoi ils parlent, qui savent ce qu'ils vivent et qui comprennent totalement leur relation avec Dieu. Et on termine par ce verset qui est absolument extraordinaire. Alors, dans certaines versions, il est même écrit en gros. Alors, je ne sais pas si dans la première version hébraïque, c'était comme ça, en gros, comme si c'était le bilan absolu qu'il fallait retenir, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est extraordinaire, ça veut dire que quand on loue Dieu, on est dans la vie. Que tout ce qui respire, alors nous les êtres humains, mais tout ce qui respire, ça englobe tout ce qui nous entoure, de notre terre jusqu'au cosmos. Mais c'est ce qui est vivant, c'est ce qui est vivant qui loue Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de vie. C'est un Dieu où le souffle de l'existence, le souffle du monde vivant est là. C'est-à-dire Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est pas la mort, à aucun moment. Et louer Dieu, c'est ouvrir complètement notre existence à la vie. Et la vie dans tout ce qu'elle a de microscopique, de macroscopique, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire on est quand même parti de louer Dieu dans son sanctuaire, c'est-à-dire nous, petite chose, et ça termine par que tout ce qui respire loue l'Éternel. Toujours avec Dieu, cette intelligence de s'occuper de nous particulièrement, de toi, de moi, mais nous n'existons individuellement auprès de lui que parce que collectivement, il s'intéresse à tout le monde. Et ne jamais oublier, et c'est aussi la force de l'Église, c'est aussi pourquoi nous devons avoir un lien avec nos frères et nos sœurs. Parce que seul dans notre maison, on peut avoir ce lien avec Dieu. Mais il ne faut jamais oublier qu'on est juste un maillon et que la perspective de Dieu, elle est aussi pour toute l'humanité, pour toute la création, pour tout ce qui est vivant. Alors, ce proverbe-là, non, ce psaume, pardon, a évidemment un sens pour nous. J'espère que tout ce que je vous raconte a des résonances et ne fait qu'enfoncer des portes que vous avez déjà grandes ouvertes dans votre cœur. Mais si un non-chrétien lisait ce psaume, qu'est-ce qu'il pourrait en comprendre? Alors, sans doute que s'il lisait les psaumes précédents, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue social, d'un point de vue psychanalytique même, il pourrait comprendre Les détresses de David, les moments de doute, d'angoisse, même les moments de joie, on pourrait les expliquer. On pourrait en tout cas les admettre et même dire que ça correspond à certaines étapes de son existence, sauf que le non-chrétien, lui, n'accepterait pas le remède. Il dirait, je vois les symptômes, je partage comme vous ces causes en quelque sorte, mais la conséquence, le remède qui est acclamé Dieu, louer Dieu, comme nous le dit ce psaume 150, donc qui étant à la fin et bien la clé de tous les psaumes précédents, le non-chrétien, lui, ne l'accepterait pas, ne pourrait pas le comprendre, et donc n'irait pas jusqu'à l'étape finale. Alors du coup, je me suis dit, face à quelqu'un qui aurait l'intelligence de s'intéresser à ces psaumes, de les lire, mais qui ne pourrait pas admettre le psaume 150, je me suis demandé, mais quelle est sa vie, cette personne-là? Quelle serait notre vie si nous n'étions pas chrétiens? Quelle serait notre vie si ce psaume 150 ne voulait rien dire pour nous? C'est très difficile de répondre à cette question. J'ai essayé. Allez, je ne suis plus chrétien. Qu'est-ce que ça change? Ah ben déjà, je ne viens pas au culte. Ça oui, ça change, ça c'est un chose très évident, je viens pas au culte et je fais autre chose le dimanche matin. À part ça, alors je me suis dit peut-être que je ne fais plus mes prières. Non, mais sauf que mes prières, je ne les fais pas obligées. Les prières, elles viennent comme ça, donc ce n'est pas quelque chose qu'on m'a mis sur la tête. À part l'obligation du dimanche matin, je ne vois pas en quoi ne plus être chrétien changerait quelque chose de fondamental dans le courant quotidien de mon existence. C'est pas comme une carte Carrefour, c'est-à-dire que j'ai pas des avantages d'être chrétien. Si je rends ma carte Carrefour, j'ai plus tel avantage sur les prix, sur les réductions, sur les soldes. C'est essayer de vous demander, si je ne suis plus chrétien maintenant, qu'est-ce qui change dans ma vie? Alors, c'est rien que de poser la question, c'est en miroir se dire, mais je ne peux pas ne pas être chrétien parce que je sais trop ce que c'est bon d'être chrétien. Mais c'est tellement bon que ça ne se définit pas par des qualités précises. Ça ne se définit pas par des avantages bien mis sur le mur et qui ont effacé des désavantages de ne pas être chrétien. Parce que si je ne suis pas chrétien, je décide de ne plus être chrétien, je ne crois plus en Dieu, je décide que c'est des bêtises, que ça ne me concerne pas, que ce psaume 150 ne me concerne pas, je ne peux pas louer quelqu'un qui n'existe pas. Je vais du coup peut-être me dire dans ma vie quotidienne, c'est la porte ouverte à tout ce qui va me faire plaisir, selon l'ordre moral de notre société, le fameux vivre ensemble, les lois. Donc je vais peut-être être un peu plus égoïste que je ne suis à l'heure actuelle, dans ma réussite professionnelle, dans mes loisirs, dans mes amours. Je vais peut-être prendre des décisions que ma morale chrétienne m'interdit de faire actuellement. Mais je ne suis pas très sûr que ma morale chrétienne m'empêcherait de faire vraiment ce que j'ai envie de faire en tant qu'être humain. C'est-à-dire, je ne crois pas que ma liberté d'être humain soit cadenassée par le fait d'être chrétien. Et je ne crois pas que le fait de ne plus être chrétien m'ouvrirait soudain un espace de liberté qui révolutionnerait mon existence. C'est-à-dire que si vous décidez, en quittant cette église, de ne plus être chrétien, ben, demain vous aurez la même vie à peu près. Sauf que quand vous ferez un truc ou deux ou trois, vous vous direz, ah ben ça maintenant j'ai plus honte de le faire, ou je le fais sans me dire c'est pas bien. Mais déjà si on se dit on fait quelque chose, on ne fait pas quelque chose en tant que chrétien parce que c'est pas bien, à mon avis c'est que notre foi est plus de l'ordre de la morale encore que de l'ordre de la relation directe avec Dieu comme nous avons lu dans le psaume. Ne plus être chrétien, ça serait ne croire qu'en l'être humain, en ses qualités, en ses capacités d'être bon, en ses capacités de changer, en ses capacités de faire du bien autour de lui, de nous faire du bien, moi-même, de pouvoir progresser, d'être meilleur, pour simplement que le monde aille mieux. Ne plus être chrétien, c'est simplement accepter d'abandonner l'espérance d'un autre monde. Il n'y a pas d'autre monde, ça n'existe pas. Donc ce que j'ai à vivre ici, je le vis correctement, sans être un tueur ni une grosse ordure. J'essaie de faire ce qu'on appelle le bien social, quoi, le bien qui est reconnu par la morale républicaine, en quelque sorte, par notre éducation, par notre civilisation. C'est décider de ne plus connaître Jésus, c'est peut-être se dire que la politique peut changer des choses, s'y engager, mais on peut peut-être aussi le faire en tant que chrétien. C'est surtout, comme je dis, croire en l'être humain, c'est croire que nous pouvons tout. Et lors de ma précédente prédication, à l'époque de Johnny Hallyday et tout, j'avais parlé d'un autre psaume où il était dit, où le psaume disait « fait qui ne croit plus en l'homme ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. C'est quand nous-mêmes, nous devenons notre propre Dieu. C'est ça, à mon avis, ne plus être chrétien. Et c'est à ce moment-là que notre liberté qu'on croirait retrouver, finalement, n'évoluerait pas tant que ça. Parce que je pense qu'on peut décider de ne pas être chrétien. On ne le décide pas, c'est comme ça. On n'est pas chrétien, qu'on n'a pas rencontré la possibilité d'être chrétien. Mais si on peut ne pas être chrétien, on ne peut pas ne plus être chrétien. Une fois qu'on a goûté à cette respiration dont parle le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, une fois qu'on a été happé par ce souffle de vie qu'on a reçu le jour où on est devenu chrétien, c'est-à-dire on a accepté Jésus, on a dit « Je crois en toi, je sais que tu es là, je sais que tout ce que tu fais pour moi jusqu'à me sauver », la marche arrière, elle n'est plus possible. C'est comme si vous étiez sur l'eau et on vous disait on va t'apprendre à aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Ah bon, comment on fait? Tu es petit, tu respires, tu bloques ta respiration, tu plonges, tu peux bloquer ton apnée, tu vas avoir droit à une minute sous l'eau, et en effet, tu vois des choses magnifiques. Et là, on peut vivre comme ça, en apnée. Puis un jour, il y a quelqu'un qui dit « Mais moi, j'ai inventé le masque avec la bouteille à oxygène. Essaye. » Là, on plonge, on apprend à respirer, et là, on va rester 20 minutes sous l'eau, on va voir les choses beaucoup plus longuement et de façon beaucoup plus confortable. Être chrétien, c'est on a eu droit au masque et à la bouteille à oxygène. Et que si on nous l'enlève, et qu'on décide de ne plus être ça, et qu'on revient à la simple apnée, eh bien, le monde ne peut plus jamais être le même. Parce que, une fois qu'on a goûté à la bouteille à oxygène de Dieu, c'est impossible de revenir à notre propre souffle personnel. C'est parce que connaître, être chrétien, avoir été chrétien, c'est avoir connu Jésus. Et ne décider de ne plus connaître Jésus, c'est une vie sans son meilleur ami, son meilleur confident, son meilleur professeur, et aussi son unique sauveur. Et si on enlève ça, ceux qui ont connu Jésus, nous tous qui sommes ici chrétiens, baptisés, qui venons donc le dimanche matin et qui avons notre propre vie personnelle de relation avec Dieu, comme dans le verset 1, une fois qu'on a goûté à cette connaissance de Jésus, à cette relation-là, à cet oxygène qu'il nous donne, à cet air qu'il nous donne, on ne peut plus, si on a été sincère dans cette relation, on ne peut plus la rejeter. C'est impossible. C'est pour ça que il faut, quand nous allons jouer des instruments pour louer l'Éternel, ou très fort ou peu fort dans l'intimité avec une ou deux personnes, il faut juste arriver à lui faire comprendre qu'on lui impose pas une morale qui, si on arrêtait d'être chrétien, nous permettrait peut-être d'aller faire des choses qu'on ne faisait pas avant. On s'en fiche de la morale. Parce que la morale, en plus, c'est la géométrie variable. À part, tu ne tueras point, tu ne voleras point. À mon avis, les lois changent et on peut s'accommoder de beaucoup de choses. Mais si on a goûté à cet amour-là, à cette relation-là, à ce souffle qui nous a donné et qui est tellement différent de notre petite apnée personnelle, c'est impossible de revenir en arrière. Même ceux qui disent je n'y suis plus, ça ne m'intéresse plus, ils ne viennent plus ici. Mais au fond d'eux, ils ont été marqués par ce souffle-là, cette respiration-là. Et louer l'Éternel, comme le dit ce psaume-là, finalement, on n'a plus que ça à dire. Combien de fois, dans nos propres soucis, dans nos poursuites, dans des moments de nos vies où on ne comprend pas plein plein de choses, notre seule réponse, c'est de le louer, de lui dire merci, de chanter un chant qui nous vient, de le chanter ici. Qu'importe, plus essayer de comprendre le pourquoi on le loue, parce qu'il nous a remplis de cette évidence. Et l'air, quand vous respirez l'air sous l'eau avec ces espèces de bouteilles, vous pouvez pas le. Vous savez qu'il est dans la bouteille, mais si vous ouvrez la bouteille, il y a des bulles qui vont partir. Vous ne pouvez pas le. Vous ne pouvez pas leur présenter que la mettre sur votre cheminée, elle ne sert à rien. Il faut que ce soit ce gaz invisible qui vienne vous remplir. Et ça, c'est notre force. C'est que quoi qu'il nous arrive, si on a vraiment fait la rencontre avec Jésus, si on est vraiment de cette connivence personnelle avec sa création, avec les souvenirs de ce qu'il a fait dans notre vie, et avec l'espérance qui devient une certitude de ce qui va se passer quelque chose après, on ne peut pas l'enlever. On peut le mettre de côté, on peut. Mais il est là. C'est extraordinaire. Ce cadeau qu'il nous fait, il nous le fait une fois pour toutes. Et ne plus être chrétien, ce n'est pas possible. Et ce matin, quand j'ai essayé de ne pas être chrétien pendant 10 minutes, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Je ne peux pas. C'est là. Je ne peux pas. Parce qu'on a rencontré Jésus. Il nous a donné des choses incroyables qui sont comme l'air que l'on respire. On ne peut pas les. Mais ça se voit dans vos yeux. C'est si on est tous là et malgré tous nos défauts et tout, et qu'on arrive à partager des trucs, à être heureux de se retrouver, et malgré tous nos défauts de plongeur en apnée, mais on se met un coup de masque. Et là, il y a tout qui revient normal, qui revient juste, qui revient vrai, qui revient profond. Louez Dieu, acclamez-le, acclamons-le. Il n'y a que ça qu'on sait faire. Et quand on le fait, il n'y a rien de plus beau que de chanter. C'est parce que quand on chante, on se libère les poumons. L'enfant qui arrive, la première chose qu'il fait quand il naît, il hurle, il crie parce que l'air est rentré. La nouvelle naissance, c'est ça aussi. La première, c'est notre apnée, c'est notre premier cri de bébé. Et là, avec sa bouteille à lui, son amour à lui, c'est pouf! C'est cet air extraordinaire qui nous fait hurler de bonheur. Qui n'a pas un moment dans sa voiture, dans un embouteillage, je ne sais pas quoi, s'est mis à chanter seul, ou s'est mis à dire merci, ou je n'y comprends rien, mais c'est là, c'est en nous. C'est extraordinaire. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Il dit pas pour, parce que, pourquoi? On ne sait pas tout. Et si je voulais conclure par ça, parce que je sais qu'on a un peu moins de temps que d'habitude. Ce n'est pas parce qu'on loue l'Éternel qu'on n'a pas peur. Il ne dit pas n'ayez pas peur. C'est normal d'avoir peur. Même avec nos bouteilles à oxygène. Moi, j'ai fait de la plongée à un moment. Oula, mais s'il n'y a plus d'eau, je suis à 30 mètres en dessous, je n'aurai pas le temps, les paliers, si la bouteille s'arrête, si je respire mal. C'est normal qu'on ait peur. On n'y connaît rien de ce qui va arriver, vraiment. On n'est que dans de la confiance absolue. On a peur de ce qui peut arriver demain. On est sûr pour les gens qui nous entourent, pour notre propre vie, pour notre santé, pour le monde, et puis plus loin pour la mort. Parce que si Dieu, le fait de louer l'Éternel, Dieu, c'est le Dieu de la vie. Les non-chrétiens, c'est le Dieu de la mort. Hier, on était voir une pièce de théâtre avec quelques-uns d'ici qui s'appelle Un air de famille. C'est un film très très connu. Donc il y avait 6 personnes. Normal, dans un bistrot, une famille. Et pendant 1 heure et demie, on a bien rigolé, c'était sympa, ils sont là, chacun avec leurs problèmes. Mais on sait bien qu'au théâtre, on ne fait pas de bons théâtres avec des bons sentiments. Donc évidemment, c'est que des gens qui ont des problèmes et qui vivent mal leur existence. On pourrait chacun dire, un tel, c'est sa femme, un tel, c'est son métier, un tel, c'est son éducation, un tel, c'est son physique. Et il y avait une noirceur au fond de ces 6 personnes-là, qui pour le théâtre convenait très bien. C'est la noirceur qui crée le comique. Mais dans la vraie vie, c'est épouvantable. Parce que ces gens-là, ils sont en permanence en apnée. Je suis bien. Et après, il faut que j'aille rechercher de l'air pour recommencer à vivre. Une minute. Et puis, c'est épuisant. Profitons-nous de cette bouteille d'oxygène. Profitons de ce souffle de Dieu qui fait que ça change tout. Et ça, c'est Jésus qui nous le donne. C'est pas un Dieu qu'on ne comprend pas. C'est Jésus. Relisons les évangiles tout le temps, en permanence. Jésus, il nous dit tout. Il nous re-remplit de son air à lui par ce qu'il a vécu, par ce qu'il a dit. Donc n'ayons pas peur d'avoir peur. La peur fait partie de notre condition humaine. Voilà, simplement, c'est une peur que Dieu a connue, que Jésus a connue. Quand il est au bord de la croix dans le jardin de Gethsémané, il a peur. Mais il a une peur atroce de la souffrance, de ce qu'il va vivre, même s'il sait, lui, ce qui va se passer après. On va avoir peur. On continuera d'avoir peur. Mais il ne faut pas que cette peur soit un blocage. Et quand on a peur, moi quand j'étais petit garçon, quand j'avais peur, je chantais. En pleine forêt, j'ai peur, oh, je suis là. Le fait de chanter combat la peur, chasse cette peur. Louez l'Éternel, acclamez-le. Louer, c'est de chanter, c'est sortir le souffle qu'il a mis en nous, c'est le waf. C'est pas l'enfermer, c'est permettre que, avec son souffle à lui, on combat notre peur humaine qu'il comprend, et elle part. Pour un temps, elle disparaît parce que nous l'acclamons. Je vais conclure sur ça. Acclamons-le, louons-le. Et si on ne comprend pas tout, et si on comprend peu de choses, s'il y a des moments difficiles, la meilleure réponse, c'est louer l'Éternel. Louer Dieu dans son sanctuaire. Acclamez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Acclamez-le pour ses hauts faits. Louez-le sur l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Acclamez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel.